Alors, je suis un petit peu désolée pour commencer, bien que je sois ravie de vous voir, bien sûr. C'est pas ça le problème, mais la personne dont je vais parler actuellement et qui devait être là, que l'on devait honorer en quelque sorte, parce que c'est, elle a un brin de peau, de comment dire, elle a une bonne petite veine poétique, c'est Béatrice Angelini, qui hélas n'est pas là. Elle a eu un petit accident au fait de Jeanne d'Arc, vous voyez, il faut se méfier, d'après ce que veut dire la présidente de la danse, Annick. Donc, elle ne peut pas venir, mais j'avais lu son poème, je pense que certains d'entre vous connaissent, et elle l'a traduit en français, donc on va commencer cette soirée, qui est quand même un peu sous le signe de la poésie, si vous voulez, par ce poème qui est sa petite chanson à elle, cette petite mélodie à elle. Alors, c'est une ode à Venise, Venezia. Com'è sgorgata dal fondo del tempo, immobile nel suo viaggio, mosaico di sangue e d'oro, Venezia ha posto lo scenario. Tutto è pur l'occhio in questo teatro, le acque nere e i muri d'alabastro, illusione, luce, fontane, per la regia tutto è pronto. Sotto il tramonto rosso, i palazzi, i gabbiani rivaleggiano di poesia e aprono il ballo notturno. Ma già il sole si sveglia, il sipario si apre sul sogno. Allora la città esplode di viola, di verde, di rosa. Sotto la maschera, le farandole nel scivolar delle gondole, la sinfonia della stoffa preziosa, della chitarra e della viola, Venezia incanta le folle. C'è la pazzia che vi porta tutti verso i ponti, i fondamenti, siete tutti di gioia ubriachi. Ma quando svanisce l'ebbrezza, un sguardo, qualche riso, un passo che sfugge per le calle, si sente solo il cigolar dei pontili. C'è l'inverno sul ponte dei sospiri e le ore scoccano al campanile. Allora, in mezzo alle ombre fantastiche, s'annega il rimembrar delle dee antiche. E tranquilla, Venezia dorme. È tanto bella Venezia. Béatrice Angelini.
Voilà. Traduction. Alors, moi, je vais vous le lire en français. Qu'on ne surgit du fond des âges, immobile dans son voyage, mosaïque de sang et d'or, Venise a posé le décor. Tout est pour l'œil dans ce théâtre. Les eaux noires et les murs d'albâtre, illusions, lumières et fontaines, tout est prêt pour la mise en scène. Dans la lumière du soleil couchant, palais et goélands rivalisent de poésie. Ils ouvrent le bal de nuit. Mais déjà, le soleil se lève, le rideau s'ouvre sur le rêve. C'est alors que la ville explose de violet, de vert et de rose. Sous les masques, les farandoles, dans le glissement des gondoles, la symphonie des mousselines, des guitares et des mandolines, Venise enchante les cœurs. C'est la folie qui vous emporte. Vers les ponts et les portes, vous êtes tous ivres de bonheur. Mais quand se dissipe l'ivresse, un regard, quelques rires et des pas qui s'égarent, on entend alors les pontons gémir. C'est l'hiver sur le pont des soupirs. Et les heures s'égrènent au campanile d'or. Ainsi, au milieu des ombres fantastiques, se noie le souvenir des déesses antiques. Et tranquille, Venise s'endort. Comme Venise est belle.
Bravo pour Béatrice. bravo pour elle. La traduction en français est d'elle, évidemment, aussi. Hein. Alors maintenant, passons à quelqu'un de beaucoup plus connu, puisqu'il s'appelle Antonio Tabucchi, et donc que nous avons déjà fait entendre. Je vous rappelle qu'il est mort en 2012, qu'il a beaucoup écrit, je ne vais pas revenir là-dessus. Et Françoise et moi, donc, on a choisi de vous faire entendre l'un de ses, enfin, de ses dernières œuvres, si on peut dire. C'est un roman de, comment dire, sous forme épistolaire. En français, le titre s'appelle c'est « Il se fait tard ». De plus en plus tard, le titre original étant le suivant, « Si sta facendo sempre più tardi ». Et il est admirablement traduit par les écrivains habituels, puisqu'ils le sont, Bernard Coman, dont je vous ai déjà lu, et une certaine Lise Chapuis. Alors il s'agit, je vais quand même vous en parler parce que c'est assez subtil et compliqué. Je vous le présente, ce que c'est. Vous allez peut-être justement trouver cela assez baroque ou cubiste plutôt. Il s'agit d'un roman épistolaire polyphonique qui comprend 17 lettres d'hommes, tous différents, qui s'adressent à des femmes, toutes différentes. Une seule lettre de femme, la 18e, l'ultime, la dernière. Et il faut savoir que l'auteur pervertit absolument tous les codes de la correspondance, car les destinataires ont disparu. Les époques s'entremêlent en dépit de toute chronologie, il n'y a aucune suite logique aux événements rapportés. Aucune. On se perd, on peut dire, pour mieux se retrouver sur l'essentiel. Mais l'ensemble, tout à fait étrange, forme un extraordinaire parcours au milieu des passions humaines, où l'amour, alors, qui est vraiment le point central sur lequel il réfléchit, eh bien, pour lui, c'est l'illusion, la quête perpétuelle. Alors, ces 17 lettres qui n'attendent pas de réponse, donc vous voyez autant de figures féminines, vous ne saurez pas plus. La 18e lettre, c'est-à-dire la dernière, est écrite par une femme. Et c'est une réponse extrêmement distante, implacable, vis-à-vis de tous ces épisodes masculins. Mais on sent chez cette femme, c'est toujours Tabucchi évidemment, une compassion pour les hommes malgré tout. Pour moi, c'est comme un vertigineux roman de l'amour impossible et une confession cubiste de l'auteur. Vous allez comprendre pourquoi, parce que tout y est déconstruit et éclaté. C'est, comme dirait Barthes, les fragments d'un discours amoureux. Rien ni réel, ni autobiographique, entre guillemets, parce que c'est forcément autobiographique quelque part. Mais tout y est vrai, parce que c'est transposé, défiguré et universalisé. Alors, nous avons choisi des lettres dont nous lirons des extraits. La première lettre s'intitule
« Je suis passée te voir, mais tu n'es pas. » Chérie, très chère chérie, point de départ. Il y avait une fois un bois. Et au milieu du bois, il y avait une villa. Et devant la villa, il y avait un jardin. Et dans le jardin, des haies de buis plantées en labyrinthe à l'italienne et deux beaux palmiers. Et sous les palmiers, il y avait quatre bancs en bois, adossés les uns aux autres, de telle façon que, assis sur l'un, on ne pouvait pas voir quelqu'un d'assis sur un autre. Et tu as déjà compris, bien sûr que tu as compris, mais tout ça, c'était juste pour te donner le point de départ. Avant-hier, c'est toi qui m'y as amené dans ce bel endroit, afin que j'y reste dans toute sérénité pendant un moment. Juste un petit moment. Jusqu'au lendemain, tu dis, je m'en souviens. Au maximum, jusqu'au surlendemain. Oui, là-bas, tu vas voir, tu vas te reposer. Tes insomnies vont passer. Et aussi cette manie que tu as de bouger tout le temps. Tu ne peux pas continuer comme ça, mon amour. Aérer d'un côté à l'autre, avec cette manie de marcher sans rime ni raison. Certains de tes amis t'appellent le déambulant. Tu n'es pas au courant. Mais ils se moquent de toi. Ils me téléphonent, en fait, ils savent que tu n'es pas là. Et ils me demandent, d'un ton ironique, est-ce que je pourrais parler ou déambulant ? Oh, tu aurais pu au moins accepter un entretien avec l'ami de Sylvie. Qu'est-ce que ça te coûtait d'aller à Zurich ? Il était prêt à t'écouter des après-midi entiers. Ça n'avait rien de professionnel, c'était vraiment par amitié. Les gens comme toi, ils s'y connaissent. D'ailleurs, il a même écrit un livre sur des cas semblables au tien.
Chérie, très chère chérie, tout ça, c'était pour te donner le point de départ. Parce que hier, ou peut-être avant-hier, c'est de là que je suis partie. De là, précisément, d'un de ces jolis bancs. J'ai pris mon petit déjeuner, je te promets. Tu peux être tranquille. Et pourtant, j'aurais pu m'en passer, parce que d'habitude, le matin, je bois seulement du café. Mais ce buffet-là, on ne pouvait pas y résister, je te jure. Tiens, rien que pour tuer, une idée. Table dressée sous la véranda, avec une nappe en lin brodée à la main de motifs populaires dans les tons bruns, vraiment très belle. Au bout de la table, juste pour commencer, une grande jatte de yaourt, fait maison, avec des fruits sauvages cueillis la veille. Fraises des bois, groseilles, framboises. D'ailleurs, si tu ne les aimes pas dans le yaourt, tu peux les déguster à part, parce qu'il y a du yaourt nature et les fruits sauvages à côté, que tu peux manger tout seul, avec juste une cuillerée de sucre ou de porto, comme tu veux. Les coupes sont en verre de Mourane. En tout cas, pas en verre ordinaire. On dirait des objets anciens. Aujourd'hui, ils te coûteraient une fortune. Peut-être qu'à Vienne, on les trouve pour moins cher, surtout si on va chez mon ami Hans. Les filaments de couleur à l'intérieur du verre sont turquoises et dessinent des ondulations très délicates. Ouais, mais mon ami Hans, sa boutique est toujours fermée ces derniers temps. Peut-être qu'il est mort. Ah, ça me ferait de la peine. À côté du saladier plein de fruits, des bois, il y a une panière remplie de minuscules brioches qu'un tissu de lin tient chaude. C'est difficile de résister à la tentation, je te jure. Je passe sur les beurres et les confitures. Et quand je dis les beurres, c'est quand qu'il y en a de trois sortes. Et en particulier un qui est salé, fait en montagne par les paysans, qui le porte dans des hottes de joncs tapissées de lauriers, ce qui lui donne une saveur que je ne peux pas te décrire. Les confitures sont comme on les fait par ici, épaisses, à base de recettes anciennes, en plus de celle aux fruits sauvages, qui est naturellement la spécialité. Il y en a une autre, celle que je préfère, au citron, à mi-chemin entre la confiture et la pâte de fruits, avec un glaçage de sucre dans lequel on devine un petit goût de kirsch, juste un soupçon.
Pour tout dire, ce petit déjeuner, je m'en suis régalée comme il faut. Du début à la fin, en finissant par un jus d'orange et un café fort. Ensuite, deux bouffées de pipe sur le banc dont je te parlais, et hop ! C'est comme ça qu'on s'était entendu, il me semble. Tu devais passer me reprendre le lendemain ou le surlendemain, ce qui faisait trois jours, si je ne me trompe pas. Eh bien, j'ai respecté ce qui était dit. Et il m'a semblé que le double de temps avait passé. Et puis hier, je me suis dit la phrase bien connue. Si la montagne ne va pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. J'ai rassemblé mon paquet qui tient en peu de choses, tu le sais, et maintenant plus que jamais, et je suis sortie tranquillement. On peut sortir de la villa en toute liberté, parce que le magnifique portail de fer forgé n'est fermé qu'en fin de journée. Et comme ça, j'ai commencé le voyage que je te décris ici. Mais si, en fait, tu le connais très bien, puisque dans l'autre sens, c'est celui que nous avons fait ensemble quand tu m'as accompagné ici. Il marche que je marche. Marche que je marche, comme on dit dans les contes. Parce que, bien sûr, j'ai fait tout ça à pied. Et je dois dire, ma très chère chérie, qu'aller à pied m'a fait beaucoup de bien. Il y avait trop longtemps que je ne faisais plus que quelques pas dans ce stupide jardin. Tu vas peut-être te demander, mais comment a-t-il fait pour parcourir tant de chemins en une seule journée? Eh bien, c'est comme ça. Je pourrais te mentir, te raconter des histoires sur le temps que j'ai mis, parce que le trajet est vraiment long. Vraiment très très long, ma très chère chérie. Mais le fait est que j'y suis arrivée en 24 heures seulement. Je pourrais même lancer le défi à un de tes vieux amis qui se piquait d'être meilleur marcheur que moi, de faire ce trajet dans les mêmes conditions que moi. Mais ce Leporello, au jour d'aujourd'hui, serait bien en peine d'un tel exploit, car il mange les pissenlits par la racine. Pourtant, rien n'est à exclure. Il arrive parfois que quelqu'un se lève et marche. C'est déjà arrivé.
Et marche, que je marche. C'est ce que tu attends que je dise, vu que tu me connais maintenant. Mais non, pas du tout, ma très chère chérie. Est-ce que je ne t'avais pas dit que cet appartement était un peu bizarre? Eh bien, je sors de la maison, je ferme la porte derrière moi, et voilà que je me trouve dans une espèce de désert rocheux et cendreux, avec des collines pelées que je ne sais pas comment te décrire. Peut-être que je pourrais dire des collines comme des éléphants blancs, et d'ailleurs, quelqu'un, ça ne te donnerait guère l'idée, et d'ailleurs quelqu'un l'a déjà dit. Et puis, un soleil qui tombait à pic, implacable, il aurait fallu un sombrero. Alors j'ai pensé, voilà, dans ce lieu inhospitalier, je vais m'écrouler au sol, misérablement, épuisé. Les vautours viendront arracher. Alors, j'ai pensé, voilà, dans ce lieu inhospitalier, je vais m'écrouler au sol, misérablement, épuisé. Les vautours viendront arracher la chair de mes os. Et ceux-ci resteront bêtement à blanchir sous le soleil, seul témoin du fait qu'un jour quelqu'un est passé par ici. Mais la fortune sourit aux audacieux. Tout d'un coup, derrière moi, j'ai entendu une voix de petite fille. Elle devait être minuscule, parce que je n'arrivais même pas à la voir dans mon petit rétroviseur. Je veux dire par là, dans mes lunettes à verre fumé, qui orientées comme il faut, me servent pour voir derrière. C'était donc une petite fille à ras de terre. Ou peut-être que ce n'était même pas une petite fille. Peut-être qu'il n'y avait que sa voix, comme pour le chat de Cheïcha. Et elle chantait une petite ritournelle à ses chèvres. Peut-être que c'était une pastourelle invisible ou totalement imaginaire, comme celle des troubadours qui apparaissent et disparaissent pendant que passe le chevalier. Et ça m'a amené à improviser pour elle une pastourelle. Peut-être un peu naïve, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je n'ai jamais été très douée pour la poésie. Pour les histoires, oui, je me débrouille. Mais là, au moins, il n'y a pas de rime. Dans les histoires, rien ne rime avec rien. Et il n'y a pas besoin de mettre ni de rythme.
Et en avant de nouveau, il marche que je marche. Le matin suivant, je sors de cette nuit passée sur la terrasse pour continuer mon voyage jusque chez toi. Et je vois cette femme debout, immobile comme une statue, c'est le cas de le dire. Tellement immobile que je lui chuchote. Psst, psst, en la regardant. Elle se tourne et elle me regarde. Comme ça, je la vois bien. Elle est vraiment belle. Du moins, c'est ce qu'il me semble. Et je crois que je lui plais aussi. Et elle me dit, « Les portes de ma maison sont ouvertes. Les fenêtres, grandes ouvertes. Et l'amour émane d'elle comme un flot ample et abondant en une sorte de confiance sans raison, d'abandon et d'oubli. À la vérité, cette phrase que je te cite littéralement, elle ne devait me la dire qu'après mon départ, mais l'idée c'était ça. Sauf que certaines idées, tu ne les conçois clairement qu'après, quand tu t'es déjà remise en route. De toute façon, je me suis arrêtée, ça, j'en suis sûre.
La maison était vieille, mais très jolie. À deux étages, peinte d'un rouge pompéen. La peinture très écaillée, avec un escalier extérieur et une tonnelle de glycine. Il ne manquait même pas un mimosa pour la fête des femmes. Les sols étaient à losanges blancs et noirs, comme les maïoliques des premières années de notre siècle, ce qui convenait très bien pour le sens de l'esthétique d'une personne dans mon genre, et plus encore pour ma géométrie, parce que je pouvais justement me mettre tantôt sur un losange noir, tantôt sur un losange blanc, et jouer aux échecs avec moi-même, jusqu'à se me faire échec et mat. Bien sûr, j'étais le seul pion, la seule pièce de cet échiquier, parce que la reine, c'était elle, et qu'entre nous, il n'y avait pas de cavalier. Sauf que là aussi, il y avait quelqu'un qui pleurait.
C'est toi. On aurait dit que c'était un bébé. Ou un petit enfant qui n'arrivait pas à grandir. Ça fait tellement de peine aux femmes. À tout le monde d'ailleurs. Mais finalement, cette peine n'a pas de raison d'être. On devrait tenir compte de ce fait. Parce que, en général, les enfants qui n'arrivent pas à grandir deviennent des adultes parfaits. Le seul vrai problème, ce sont les enfants heureux, comme je l'étais, qui se gâtent en vieillissant et font le chemin à l'envers jusqu'au jour où, plop, ils explosent comme le chewing-gum de l'univers en expansion vers le néant. Ah, finalement, le problème, c'est le déphasage de l'horaire que nous avons tous, ma très chère chérie. Tu ne crois pas? Je veux dire, toi tu es là, tu as grandi jusqu'au point qu'il faut. Et soudain, il y a un enfant qui pleure, ou un vieux, beaucoup plus vieux que toi, qui entre dans ton calendrier. Et c'est ça qui crée un grave déphasage dans la vie des gens.
L'idéal, ce serait que tout le monde, mais je dis absolument tout le monde, ait l'âge qu'il faut, au moment qu'il faut, dans l'endroit qu'il faut, où, par hasard, nous nous rencontrons dans ce petit bout d'univers en expansion vers le néant. Voilà ce qui faciliterait grandement les choses. Ah, mais peut-être que les biologistes ne seraient pas d'accord avec cette éventualité, et les démographes non plus, parce que d'après eux, la race humaine finirait en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Oh, d'accord, peut-être qu'elle finirait, mais de toute façon, puisque nous nous dirigeons vers le néant, que celui-ci arrive un peu plus tôt ou un peu plus tard, qu'est-ce que ça fait? Bon, enfin bref, revenons à l'essentiel. J'ai décidé de quitter cette belle maison aux fenêtres grandes ouvertes sur la glycine et aux portes grandes ouvertes à l'amour parce que j'avais réellement besoin d'un endroit où personne ne pleurerait. Sinon, je ne serais pas arrivée ici, chez toi, car finalement, j'y suis arrivée.
Donc, j'arrive. Et la première chose que je remarque dans l'allée qui mène au jardin, mais qui est accessible à tous, c'est un triangle jaune montrant une silhouette d'homme avec une pelle. Je passe quand même. Et au milieu de la petite allée en terre, bordée de buissons de lavande, je trouve une allée pavée de dalles de porphyre, bordée d'une rampe blanche tout en volute. La chose ne m'a pas seulement surpris, elle m'a atterrée esthétiquement parlant et je me suis souvenue des revues dont tu te moquais du type « Les plus belles maisons de la Riviera » ou quelque chose dans ce genre. Malgré tout, je m'avance. Et à la place du jardin en terrasse, où, jusqu'avant-hier, nous nous asseyions pour regarder la nuit tomber sur la mer, il y avait une espèce de petit pré avec une herbe d'un vert vraiment exagéré. Je me demande d'ailleurs comment elle a fait pour pousser si vite, à moins qu'il l'ait installée en déroulant des bandes déjà cultivées. Il paraît que ça se fait aujourd'hui. Sur l'herbe, en forme d'empreinte de pied, des petites dalles de marbre sur lesquelles on marche pour gagner l'entrée principale, c'est-à-dire la véranda avec la tonnelle. Une tonnelle qui entre-temps avait disparu. Elle avait été arrachée et on voyait les racines qui dépassaient de la plateforme d'une camionnette garée près de l'entrée. À la place de la tonnelle, une sorte de portique recouvert de tuiles rouges, mais d'un rouge, vraiment très rouge et verni, mais avait soutenu par deux petites colonnes de marbre à chapiteau ionique.
J'ai levé la tête au cas où tu serais sur la terrasse où tu m'attends d'habitude. Le mur de pierre brute qui entourait la terrasse, où à l'abri des regards indiscrets nous prenions le soleil nu, avait disparu. À la place, une rambarde de fer forgé, pleine de volutes, identique à celui de l'allée. À celle de l'allée, plus exactement. Les persiennes vertes de la porte-fenêtre avaient été remplacées par une baie vitrée coulissante, comme dans certaines maisons qu'on voit dans les films américains. Je me suis arrêtée stupéfait et j'ai posé mon sac à dos par terre. Sous le portique, il y avait un monsieur assis sur un tabouret qui consultait d'énormes rouleaux de papier. Il était très concentré. Il n'a pas fait attention à moi. « Bonsoir, ai-je dit, il y a quelqu'un ?»« Ben oui, il y a moi !» m'a-t-il répondu. « Comme vous pouvez le voir !»« Ah oui, bien sûr, ai-je dit, vous êtes là, c'est évident. Mais excusez-moi, qui êtes-vous »« Comment que je suis ? Je suis l'architecte ! Qui voulez-vous que je sois ?» Il m'a regardé d'un air soupçonneux et je crois savoir pourquoi. Ma veste pleine de poussière, mon vieux chapeau en feutre, le sac en toile de jute que j'ai toujours utilisé. D'où arrivez-vous ? M'a-t-il demandé en me toisant de la tête aux pieds. De la Villa Sérénité, lui ai-je dit. Il a dû penser que c'était une maison sur une colline des environs et il a aussitôt changé de ton. Vous voulez peut-être voir la maison ? M'a-t-il demandé aimablement.
Voir la maison ? Qu'est-ce qu'il veut dire, ai-je pensé en moi-même. Voir une maison que je connais depuis toujours et que j'ai quittée avant-hier ? Dans un moment, lui ai-je répondu, comme pour prendre un peu de temps. Je vais faire un petit tour derrière. En fait, j'avais envie d'uriner. Peut-être à cause de l'angoisse que cette situation insolite provoquait en moi. Je suis descendue jusqu'au potager. Mais il n'y avait plus de potager. Fini les buissons de sauge et de romarin. Fini les haricots verts grimpants entortillés sur leur tuteur. Fini les pots de basilic et de persil. Il y avait des parterres de pensées aux pétales un peu flasques, peut-être parce qu'elles venaient d'être transplantées, et une petite haie de buis pour donner l'idée d'un jardin à l'italienne. J'ai pisser contre ses oreilles.
Je suis revenue vers le portique et ce drôle de type là me dit « Alors, vous voulez la voir ou vous ne voulez pas la voir ?» Assis sur des briques, il y avait un ouvrier avec une casquette de peintre et la chemise toute tachée de plâtre. Lui aussi, il me toisait de la tête aux pieds. « Mais je n'ai pas besoin de la voir, lui ai-je répondu. Je la connais mieux que vous. » « Ah bon ? » dit-il. « Et comment ça se fait ? » ?»« J'y ai dîné avant-hier avec la dame qui en est propriétaire, lui ai-je répondu. » Alors, il se donne une claque sur la cuisse en s'exclamant « Ah, c'est génial ! Et qu'est-ce que vous avez mangé ?» Je lui ai décrit rapidement le repas pour lui faire plaisir. « Il faut que vous sachiez, ai-je précisé, que cette dame est une excellente cuisinière et qu'elle a une vraie passion pour la gastronomie. » Nous avons mangé un velouté de petits pois avec une noix de beurre et une feuille de sauge, du poulet en sauce et une tarte au chocolat que la dame a faite elle-même.
Un petit dîner délicieux, a-t-il commenté. Mais si vous avez dîné avant-hier, vous devez avoir digéré à l'heure qu'il est. Justement, et c'est pour ça que j'ai faim maintenant. Excusez-moi, mais où est-elle, la dame ? Il a échangé avec le peintre un regard qui avait l'air de connivence. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Peter ? A-t-il demandé au peintre. Bon, a répondu l'autre en écartant les bras. Je commençais vraiment à m'inquiéter. Elle est sortie, ai-je demandé. Peut-être qu'elle est sortie. Oh, j'ai bien peur que oui, m'a répondu ce type qui se disait architecte. J'ai bien peur qu'elle ne soit vraiment sortie. Il y a longtemps, ai-je demandé, n'a rien dit. Est-ce qu'elle est sortie depuis longtemps, ai-je insisté. Le type s'est de nouveau adressé au peintre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Peter ? Le peintre avait l'air d'être sur le point d'éclater de rire. Mais à la grimace qu'il faisait, on voyait qu'il se retenait. Pourtant, à la fin, il a lâché un éclat de rire bruyant et un peu vulgaire. Ha ! Moi, ça fait quelques années, a-t-il bafouillé entre deux éclats de rire. Au moins depuis avant la guerre, monsieur l'architecte.
Et le voilà reparti à rire, comme s'il avait dit quelque chose de très comique. Oh, je me suis aperçue que je commençais vraiment à m'énerver. Mais j'ai essayé de rester calme. Est-ce qu'elle n'aurait pas laissé un mot pour moi ? Par hasard, ai-je demandé ? Je ne crois pas, dit l'architecte. Vous croyez qu'elle rentrera tard ? Ai-je demandé ? Oh, bon, j'ai bien peur que oui, oui, j'en ai peur. Enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas la peine que vous l'attendiez. Nous, de toute façon, il faut qu'on s'en aille. Excusez-moi, mais on va fermer la porte et s'en aller. Bon, moi je vais attendre qu'elle revienne, je dis. Je n'ai rien de prévu ce soir. Je crois que je vais m'asseoir ici et lui écrire une lettre. Chérie, il arrivait de loin ce soir-là et il était fatigué. Fatigué de sommeil parce qu'il avait dormi longtemps. Mais combien de temps ? Ah, très longtemps. Il avait l'impression d'être le vilain au bois dormant. Au bois, c'est-à-dire dans la forêt. Et au milieu du chemin, il y avait une pierre. Cette pierre, il n'avait pas su la dépasser. Et c'est pour cela qu'il était resté comme le vilain au bois dormant. Il était vraiment laid, effectivement. Et c'est comme cela qu'il se sentait, pendant qu'il conduisait sa bagnole, tirée par deux chevaux, alors que tous sur cette route sombre le dépassaient à toute vitesse. Plusieurs fois, il avait été tenté de s'arrêter dans une auberge. Certaines lumières lointaines, à flanc de colline, promettaient des hameaux paisibles, une nourriture savoureuse, un lit sûr. Oh, il faisait déjà chaud. On était au début de mai. Lui se disait, un voyage comme ça à mon âge, moi qui suis presque aussi vieux que Cicéron quand il a écrit le De Senectute au sujet de la vieillesse. Et en même temps, il s'appliquait à bien conduire ses deux chevaux qui dans les montées tiraient vers le bas-côté. Et puis, il y avait cette ridicule ceinture lombaire qu'il mettait avec l'excuse du mal au dos, mais grâce à laquelle, en réalité, il tâchait de masquer un début de bedaine qui commençait à être un peu trop visible. Il pensa « Je m'en reviens ». Ensuite, il pensa « Je lui téléphone ». Il s'était arrêté sur une aire où des routiers hollandais dormaient appuyés au volant. Il y avait un restaurant éclairé au néon. On pouvait téléphoner avec des pièces et manger une fougasse chaude.
Il décida de lui téléphoner. Il pensa, un homme de mon âge ne peut pas arriver chez une dame sans s'annoncer à une heure pareille du soir, après avoir dormi si longtemps dans le bois. Il mit donc des pièces dans l'appareil, dans ce bar d'autoroute, pendant que les routiers hollandais riaient fort des blagues qu'ils se racontaient. Et il constata avec soulagement que la ligne était occupée. Si elle était occupée, cela signifiait qu'elle était chez elle et qu'elle n'était pas couchée. Alors il demanda à la caissière « Combien y a-t-il encore de kilomètres jusqu'à Alep ?» Bien sûr, la ville voisine n'était pas Alep. Mais pour lui, elle avait le parfum qui, dans le souvenir qu'il gardait des mille et une nuits, caractérisait la mythique Alep. Mais cela, il le demanda dans sa propre langue, qui était tout à fait incompréhensible pour la caissière, et elle ne saisit que le mot de kilomètre. Alors elle répondit en écartant les doigts d'une main, « Donc, encore 5 kilomètres. » Il pensa, « Je suis presque arrivé, ça vaut la peine d'essayer. » Il remonta dans sa bagnole, qui maintenant semblait être un traîneau, car elle glissait rapidement en dévalant les collines, et sa seule inquiétude était d'être le vilain au bois dormant, un peu ventripotent, car même si elle n'était plus très jeune, quoique beaucoup plus jeune que lui, elle avait dû se trouver un ami qui n'avait pas un brin de ventre, de ces types qui ne s'endorment pas dans les bois parce qu'ils jouent au tennis. Et cette pensée lui provoqua un élancement au foie qu'il n'avait pas en très bon état. Il se demanda, quand Ivan Ilitch commence à ressentir un élancement au côté, c'est à droite ou à gauche ? Oh. De toute façon, il avait tellement changé avant même son long sommeil dans le bois. Moins au physique que dans sa façon d'être, il s'en rendait compte au vocabulaire qu'il utilisait mentalement, tout en guidant son traîneau dans les descentes et en se voyant doublé par des chauffeurs téméraires qui conduisaient leur véhicule sans se soucier du danger ni d'autrui. Jamais auparavant, il n'aurait murmuré à leur adresse ces grossièretés peut-être encore plus lourdes que celles qu'utilisaient en hollandais les deux routiers hollandais. Et quand il pensait à elle, autrefois, ou à faire l'amour avec elle, ou à son sexe à elle, jamais sa pensée, même au comble de la passion comme elle l'avait été, n'aurait osé s'exprimer dans un vocabulaire aussi cru que celui qu'il employait maintenant dans sa tête.
Oui, parce qu'il y avait l'élégance du cœur pour dominer l'excès du corps, et que le côté animal qu'il y a parfois chez les hommes pouvait être domestiqué par un léger romantisme qui voile, corrige ou adoucit. Par exemple, en la voyant évoluer dans la maison en robe de chambre, comme il imaginait qu'elle était en train de le faire en ce moment même. Il lui aurait dit, comme le poète français, « En robe verte, vous rappelez Mélusine et vous marchez à petits pas comme dansant. » C'est comme ça qu'il lui aurait parlé autrefois. Et maintenant, il dirait plutôt, en tout cas, c'est comme ça qu'il pensait qu'il dirait. « Ton cul, quelle merveille ! C'est un large sourire ! Oh, il n'est jamais tragique !»
Est-ce que c'était une façon de se présenter ? Et si elle avait un homme avec elle ? Elle pouvait très bien avoir un homme avec elle, son homme. Et si par exemple, sur le pas de la porte, elle allait lui dire « Parle plus bas s'il te plaît, il y a quelqu'un qui dort à côté !» Ou pire encore, je vous serai reconnaissante de ne pas parler aussi fort. Ici, à côté, il y a Alfredo qui dort. Parce qu'il était tout à fait possible qu'elle le vouvoie après tant d'années de sommeil. Et dans la pièce d'à côté, il pouvait tout à fait y avoir un Alfredo. Dans la vie, il arrive que des hommes s'appellent Alfredo et dorment dans la pièce à côté. Et soient là justement pour aimer. Oh, aime-moi, Alfredo.
Il s'engagea dans un boulevard plein de lumière. Alep, Alep de mes rêves, pensa-t-il, tu m'accueilles toute scintillante de lumière comme un César triomphateur. Il baissa la fenêtre et laissa entrer l'air frais de la nuit. Ça sentait le tilleul, la vanille peut-être, comme devait sentir Alep. C'était peut-être à cause de cette petite usine de biscuits qu'on voyait là sur la gauche, avec une grande enseigne lumineuse. Biscou, biscuit. Ah, un bon nom, oui. Biscou, biscuit. Par exemple, il aurait pu faire comme ça. Frapper plutôt que de sonner, c'était plus élégant. Un coup de sonnette à cette heure-là aurait fait sursauter n'importe qui. Alors elle ouvrait et il disait « Salut, biscou, biscuit !» Le feu, tout au bout du boulevard, commença à clignoter à l'orange. D'habitude, ils font ça à partir de minuit, ce qui voulait dire qu'il était déjà minuit. Toi, qu'est-ce que tu ferais à quelqu'un qui est resté au bois dormant pendant Dieu sait combien de temps et qui se présente chez toi passé minuit en t'appelant biscou, biscuit?
Je lui claquerai la porte au nez, se répondit-il. Et peut-être avec une bonne petite injure prononcée tout bas, bien poliment, biscou, biscuit, il manquait plus que ça. Tout à coup, au bout de ce boulevard qui traverse des quartiers anonymes, il aperçut des platanes. Et tout à coup, comme dans une photographie, il revit la géographie exacte de cette ville maritime qu'il connaissait si bien et qu'il croyait avoir oubliée. C'est ça, le boulevard débouchait sur le front de mer où des vieux tamaris bordaient une plage de galets. Un peu plus loin, il y avait le petit port, au-delà duquel commençait le centre historique, un lacis de petites rues pavées qui était autrefois un village de pêcheurs. Au milieu de cet écheveau de ruelles, s'ouvrait une petite place où il y avait une église blanche flanquée de deux palmiers. L'église aux deux palmiers. Et à côté de l'église, il y avait des arcades sous lesquelles autrefois les pêcheurs réparaient leurs filets assis sur de minuscules tabourets bleus qui ressemblaient à des sièges d'enfants. Au-dessus des arcades, il y avait des vieilles maisons. Et dans celle de gauche, qui avait un balcon en fer forgé, il y avait elle. Maintenant, elle était allée se coucher. Il en était sûr, elle était allée se coucher, c'était certain. 20 minutes auparavant, le téléphone était occupé, donc elle était encore réveillée. Mais à minuit et quart, qu'est-ce qu'elle peut faire encore debout, une femme seule? Bon, elle va se coucher. À plus forte raison s'il y a un Alfredo.
Le centre historique était interdit à la circulation. Mais à cette heure-ci, il ne risquait pas de rencontrer de policiers. Ce n'était pas encore l'époque des vacances. Il se gara sous l'un des deux palmiers sur un emplacement réservé aux handicapés, parce que c'était normal que le centre historique ne leur soit pas interdit. « C'est une place qui me va bien, » pensa-t-il. « Elle tombe au poil. » Oh, quelle expression démodée, pensa-t-il, tombée au poil. Mais d'où sortait-elle? Oh, peut-être de son adolescence, quand les jeunes parlaient comme ça. Tossé, tombé au poil, juré, craché. La fenêtre qui avait le balcon était éteinte. Sale fenêtre, sale fenêtre, pourquoi est-ce que tu es éteinte? Putain de fenêtre! Putain de fenêtre! Pourquoi est-ce que tu es éteinte? Oh, les gentilles petites fenêtres, sois mignonne, rallume-toi! Elle est juste allée un moment dans la chambre et elle a éteint la lumière, mais maintenant elle revient. Rallume-toi! Elle a oublié ses lunettes dans le salon. Elle lit toujours avant de s'endormir, mais elle n'y voit pas sans ses lunettes. Elle a toujours été presbyte, même quand elle était jeune. D'ailleurs, si elle ne lit pas au moins 2 ou 3 pages, elle n'arrive pas à s'endormir. Je le sais mieux que toi. Rallume-toi, ne fais pas l'idiote.
Il s'assit sur le banc de pierre devant l'église. Sonner ou ne pas sonner, telle est la question. Ou mieux, monter ou ne pas monter. Parce que le portail était ouvert comme il était toujours, car il permettait d'accéder à 3 appartements et personne ne prenait soin de le fermer. Il eut l'idée d'allumer une cigarette juste pour réfléchir. Mais si tu allumes une cigarette, tu es fichu, mon cher. Parce que c'est la dernière occasion. Parce qu'elle s'est endormie pour de bon. Finalement, ses lunettes, elle les avait sur la table de nuit. Et combien de pages lit-on le temps de fumer une cigarette? Pas plus que 2 ou 3. Et elle, au bout de 2 ou 3 pages, elle s'endort avec le livre sur la poitrine. Quelquefois, c'est toi qui le lui enlevais quand tu te couchais tout doucement à côté d'elle pour ne pas la réveiller. Bon, alors, vas-y, s'il te plaît. Fais un effort et vas-y. D'accord, mais si c'est Alfredo qui vient t'ouvrir, essaie d'imaginer ça. Excuse-moi. Un Alfredo, l'air ensommeillé, irrité, en caleçon peut-être, qui te fait « Pardon, mais vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous voulez à cette heure-ci ?» Essaie d'aller lui dire « Biscuit, biscuit !» Alfredo te donne un coup de poing qui te fait rouler en bas de l'escalier.
Il se leva et écrasa le mégot sous son pied. Bizarre. Il lui sembla que les pas qui résonnaient sur les pavés étaient ceux d'un autre. Ils étaient légers, comme ceux de quelqu'un qui vous suit. Mais qui le suivait? Ah, facile. C'était celui d'il y a des années qui le suivait. Le même qui n'était plus le même. Et les mains aussi. Les mains aussi, qu'est-ce qu'elles changent? Qu'est-ce qu'elles ont changé, mes mains? Est-ce qu'elles avaient changé? Ah oui. Elles avaient changé, comme si la chair qui fuselle les doigts et fait un coussinet au-dessous du pouce s'était toute déplacée sur le ventre, laissant les mains osseuses, presque squelettiques, et piquées de taches brunes, qui ne se voyaient pas maintenant parce qu'il faisait noir, mais en haut, une fois qu'il serait monté à la lumière, elle serait bien visible, trop. C'est vite dit, monter. Et s'il y avait vraiment un Alfredo? Il monta les marches tout doucement, comptant jusqu'à 7 pour chaque marche. Les 7 plaies d'Égypte. Pendant 7 ans, Jacob fut le berger de Laban. 7 ans de malheur, les 7 péchés capitaux, les bottes de 7 lieues, les 7 vies d'un chat, 7 chats, 7 fous, de 5 à 7, c'est l'heure des amants. Mais maintenant, il était 00h30. Pourquoi avait-elle enlevé le nom de son nom de la sonnette? Peut-être n'habitait-elle plus ici. Ah, mais si, elle y habitait, c'était juste un petit bout de carton tapé à la machine qui s'était abîmé avec l'humidité des murs et elle l'avait enlevé. Allez, sonne, bonne chance.
Elle était ni en robe de chambre, ni en chemise de nuit. Elle était habillée avec élégance, lui sembla-t-il, comme si elle revenait d'une fête ou d'un dîner. Il l'entrevit par l'entrebâillement de la porte qu'un crochet de sécurité maintenait fermée. Elle lui demanda seulement « Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci ? » Oh, quel idiot ! C'était la seule question qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle lui pose. La plus simple. Celle que l'on pose à un ami que l'on n'a pas vu depuis une semaine. 7 jours ? C'est 7 jours qui avaient passé ? Il s'était trompé dans ses comptes.
Oh, ça lui vint comme ça. Te voglio, te cerco, te chiamo, te vecco, te santo, te sono. Dit-il à voix basse, enchanté.
Qu'est-ce que tu dis? Demanda-t-elle.
Tu lontana mi stai, tu vicina te santo, poursuivit-il.
Elle enleva le crochet de sécurité et ouvrit la porte. Entre. J'étais sur le point d'aller me coucher. Tu as dîné?
Oh, il répondit que oui, enfin non, oui, oui, dit-il, un chausson au fromage. Oh, mais ça me suffit. Le soir, j'essaie de ne pas trop manger.
Je vais te donner un morceau de gâteau. Je vais le chercher à la cuisine. Tiens, assieds-toi. Ce soir, j'avais des amis à dîner et j'ai fait le gâteau que tu aimes.
Le gâteau de la reine? Tu as fait le gâteau de la reine?
Ah, ça fait je ne sais combien de temps que je n'en ai pas mangé.
Elle arriva avec un plateau. Parce que tu es belle, dit-elle. Moi, je sais très bien depuis combien de temps tu n'en as pas mangé. Toi, tu ne le sais pas parce que tu es bête. Elle lui versa un petit verre de Porto. J'ai fait refaire le plancher, dit-elle. Il te plaît ?
Oui, c'est joli. On fume une cigarette ?
J'ai arrêté, mais vas-y, fume tranquillement. Moi, je vais me coucher. Je suis un peu fatiguée.
Oh, je peux venir ? Où commence la géographie d'une femme ? Elle commence à ses cheveux, se répondit-il. Tu sais que la géographie d'une femme commence aux cheveux ? Lui murmura-t-il à l'oreille. Elle s'était couchée sur le côté et il lui tournait le dos. Ensuite, ça continue avec la nuque et les épaules, jusqu'à l'endroit où se termine la colonne vertébrale. Là, c'est le terrain d'entrée de la géographie d'une femme. Parce que juste après le coccyx, il y a une petite boule de graisse ou un petit muscle comme un jabot de poulet. C'est là que commence la zone la plus secrète. Mais d'abord, j'ai besoin de te caresser les cheveux et ensuite de te gratter tout doucement la nuque. Je suis venue surtout pour te gratter la nuque. J'ai l'impression que sans ton corps, mes mains ont perdu leur sensibilité. Elles sont devenues laides, sèches, pleines de taches.
Ne fais pas de chatouille, tu sais que je les crains.
Bon, alors je vais te masser. Je vais te caresser les épaules comme si je te massais doucement, seulement avec la paume de mes mains.
Comme ça, tu vas me faire dormir. Ça me détend, ne t'en fais pas.
Dors, je te réveillerai. Tu veux que je te chante un lied tout bas ?
Tu composes encore ? Demanda-t-elle d'une voix qui sombrait dans le sommeil.
Parfois, de temps à autre. Mais maintenant, je reprends plutôt ce que j'ai composé durant toutes ces années.
Comment c'est cette petite chanson que tu m'as dite au moment où tu entrais ?
Mais quelle chanson ?
La chanson napolitaine. Allez, ne fais pas semblant.
Il continua à la caresser de la main droite et lorsque de la main gauche passant par-dessus le corps, il lui toucha les seins, elle dormait déjà. Il sentit de petites rides au creux, dans le creux entre les seins, l'épiderme qui se flétrissait. Mais les seins étaient encore doux, tièdes et l'aréole autour des tétons était large, pleine de petits grains comme des graines qui veulent sortir de terre. Il pensa que c'était beau, la géographie d'une femme. Et facile quand on la connaît et qu'on l'aime. Et il pensa que les hommes sont stupides. Parce qu'ils croient, quelquefois, qu'ils peuvent l'oublier. C'est pour cela qu'ils sont stupides. Et pendant qu'il pensait tout cela, il sentit que son corps se mettait à respirer au rythme du corps qu'il tenait entre ses bras. Et il pensa... « Il faut que tu restes conscient. Attends, ne t'endors pas maintenant. »
Quand il rouvrit les yeux, on entrevoyait l'aube. En mai, il commence à faire jour de bonne heure. Dans son sommeil, elle avait remonté la couverture. Ou peut-être que c'était lui sans s'en rendre compte. Il la découvrit et lui caressa les fesses. D'abord doucement et puis plus fort en les pressant. Elle remua dans son sommeil et laissa échapper un petit son sourd.
« Oh, quelle merveille, ton cul ! Et c'est un large sourire, il n'est jamais tragique !»
Elle se réveilla. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-elle.
Oh, il répéta. « C'est un poème !»«
Que tu es bête !»
De la main gauche, il chercha son sexe.
Elle serra les jambes. « Répète-moi ces vers que tu me répétais cette nuit, » dit-elle. Je m'étais endormie.
Lesquels ?
Ceux de la chanson napolitaine, dit-elle. Enfin, je crois.
Je ne m'en souviens pas.
Mais si, dit-elle. Celle qui dit Tivolio.
Ah bon ?
Sex contains all bodies, souls, meanings, proofs, purities, delicacies, results, promulgations, songs, commands, health, pride, the maternal mystery, the seminal milk, all hopes, benefactions, bestowals, all the passions, loves, beauties, delights of the earth, all the governments, judges, gods, fellow persons of the earth, these are contained in sex as part of itself and justifications of itself.
Tout, âme et corps, est dans le sexe. Sens, preuve, pureté, complexité, résultat, promulgation, chant, ordre, santé, orgueil, le mystère maternel, le lait séminal, tous les espoirs, les bienfaits, les dons, toutes les passions, les beautés, les délices de la terre, gouvernement, juge, Dieu, personnages escortés, tout est dans le sexe, fait partie du sexe, justifie le sexe. Il disait cela tout en lui caressant le pubis.
Espèce de filou, ça c'est du Walt Whitman.
T'es volio.
Viens, dit-elle.
Je viens comme ça, par derrière?
Non, dit-elle, viens sur moi, je veux que tu me couvres.
Oh, je ne m'attendais pas à un mot comme ça dans ta bouche.
C'est un terme naturel, c'est un terme de l'amour naturel, elle le serra fort.
J'aimerais dormir encore un peu. Il fait à peine jour.
Tu n'as presque pas dormi de toute la nuit. Je t'ai entendu, qu'est-ce que tu crois? Si je te tiens dans mes bras, tu crois que tu dormiras mieux?
Tu sais bien que oui.
Tu veux que je te murmure quelque chose? Avant, tu voulais toujours que je te parle. Tu t'endormais plus facilement.
Ce que tu veux.
Je connais une chanson napolitaine, dit-elle. Tu sais, je ne chante pas très juste, mais je peux essayer de te la chantonner. Elle commence par « Je te veux » et elle finit par « Je te rêve ».
Ah, dis-moi, est-ce que ça serait comme si c'était « Te voglio, te cerco, te chiamo, te vecco, te santo, te sono ». Ah, je te veux, je te cherche, je t'appelle. Je te vois, je te sens, je te rêve. Fin du rêve érotique d'Antonio Tabucchi. Et notre consoeur angliciste, il est vrai qu'il était indispensable de le dire en anglais puisqu'il l'a écrit en anglais et que c'était un amoureux de Paul de Walt Whitman. Voilà. Bon, vous pouvez éventuellement, je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser. Je ne pense pas que.
Comment a-t-elle fait pour combiner tout ça? Harmoniser, hein?
Multiples répétitions, c'est sûr.
Voilà, combien d'heures
de... Oh, je ne sais pas, mais bon.
Un peu de temps.
Est-ce que ça vous a, comment dire, paru un peu, comme je vous l'avais dit, un peu baroque, un peu éclaté, un peu cubiste, justement?
Oui, oui.
Est-ce que ça vous a paru... C'est ça qui m'intéresserait, de savoir comment vous l'avez reçu, comment... Oh, ben, dites quelque chose, les uns...
C'est difficile.
Oui, justement, c'est difficile à expliquer.
On sent que c'est quand même quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes, hein, je pense, qui connaissait bien les femmes aussi, et tout ce qu'elles ressentaient, parce que... dit des choses quand même que les femmes sont susceptibles d'avoir en elles et qu'il a très bien saisi.
Ouais, il a saisi la sensibilité féminine, visiblement. Ah mais non, mais il est clair qu'il s'agit de femmes. Bon, tout est imaginaire et tout est réel. Voilà, c'est ça. Voilà, en même temps. Ah mais bien sûr. Oui, bien sûr, puisque c'est un homme qui est mort il y a quelques années, en 2012.
Oui, puis je crois qu'il revit des choses.
Il revit. Ça, voilà, c'est voilà. Bon. Et puis c'est un poète. Bon. Si. Il y a des femmes de sa vie.
Oui, je pense que c'est des femmes de sa vie.
Les femmes de sa vie et le manque d'amour qu'il... cet amour qu'il n'a pas pu, enfin qu'il n'a pas su, c'est un peu ça qu'il veut faire passer. L'impuissance d'aimer.
C'est la difficulté d'aimer.
Comment vous l'avez ressenti ?
C'est ça.
Catherine.
Il imagine ce qu'il...
Comment ? Voilà. Oui, oui. Ouais, presque fantastique par moment.
Voilà, voilà. Ouais. C'est ce qui est difficile à lire d'ailleurs. On ne sait plus si on est dans le fantastique, dans le réel, dans le rêve. On ne sait plus.
Alors, la femme est secondaire. D'après, enfin, bon, il y a 17 lettres à lire, hein, donc c'est. La femme est tout, au contraire. La femme est tout. Mais, comment dire, c'est seulement il joue avec la, je pense, enfin, je sais pas, avec le sentiment, la sensation. Et puis d'ailleurs, c'est un hymne à la sexualité. Voilà. Qui aussi. Ben moi je trouve que quand il l'imagine dans sa robe de chambre avec les lunettes ceci etc, c'est vraiment du vécu, c'est des souvenirs personnels, ou quand elle avait un livre posé sur la poitrine et qu'il lui enlève, je veux dire ce sont des gestes habituels, enfin il y a peut-être les deux, un mélange quoi.
Oui, et puis il y a aussi le fait de citer Waltman. Et pour Whitman, le sexe représentait, était le réceptacle, en somme, de toutes les forces intérieures. Et c'est ce qu'il a voulu exprimer dans ces quelques lignes-là qu'on a lues. Et parce que pour lui, pour Whitman, la poésie, c'était une explosion. Il ne voulait pas, justement, il a été un des poètes qui a rompu avec le style poétique traditionnel, il était en somme le vers libre, pour le vers libre bien en avance des autres, parce que pour lui c'était la vitalité interne de l'individu, et la vitalité c'était le sexe, parce qu'elle portait en somme toutes les autres vitalité intérieure, et c'est ce qu'il voulait exprimer, c'est je pense pourquoi l'auteur l'a cité.
Ouais, voilà. C'est pas un hasard qu'il ait choisi quand même ce sonnet de. Non, voilà.
Oui, et.
Jean-Louis, oui.
Tu as choisi deux adjectifs, celui de baroque et de. D'utiliser ces mots-là, ça relève presque un peu de la psychanalyse, au sens où on fonctionne par analogie, où on rebondit d'une idée sur l'autre, etc., avec des moments intenses sur certains domaines, et puis on repart sur autre chose, etc.
Oui, mais tu as tout à fait raison, mais l'écriture est éclatée, donc en ce sens-là, oui, c'est un portrait cubiste.
Quand on est en analyse sur le divan, hein, pas en psychothérapie, en analyse. On fonctionne par analogie avec des rebondissements.
Je comprends.
Comme ça.
Ouais.
Il y a des moments que l'on creuse et puis il y a une autre image qui vient se coller et repartir.
C'est ça. Ouais.
C'est ça qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est qu'on est dans cet univers-là qui est à la fois onirique peut-être, mais l'onirisme s'appuie sur la réalité.
Bien sûr. Bien sûr.
Propre du terme. Hein, voilà.
Oui, d'ailleurs, c'est la même chose chez Whitman. Whitman disait qu'il était en lui un tourbillon.
Ouais.
donc qui brasse, qui emporte tout, et en même temps il y a un lien avec la nature, l'environnement,
ouais, ça,
et c'était très très net chez Whitman, parce que pour lui il était un peu comme les panthéistes, quoi. Il avait pour lui l'être humain et la nature ne faisaient qu'un, et il y avait fusion entre les deux, et c'est ce qu'il voulait exprimer, et il l'exprime chez Whitman. Ce qui compte, c'est la cascade de mots. Hein, c'est comme ça qu'il brise la métrique, enfin le rythme du vers traditionnel. Il le dit dans ses écrits, qu'il ne voulait ni rime ni rythme. Il voulait en somme que ce qu'il ressentait se soit déversé en cascade.
Et bien c'est ce que fait Tabouki.
Et c'est
ce que fait Tabouki, parce qu'il l'admirait.
Il rejoignait l'univers. Ben voilà. Il y avait aussi une notion de panthéisme et de lien entre la Terre et le cosmos, en somme. Mmh. Et l'être humain et le cosmos.
Et je pense que Tabouki, effectivement, a voulu rendre un hommage à Walt Whitman en faisant ce travail d'écriture. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un travail.
Oui, c'est pour ça, je rebondis sur ce que vous disiez.
Ce flux qui se déverse avec des
oui, puis des courants avec des moments où c'est un peu statique, et puis après ça repart, c'est emporté. Il y a toujours l'idée d'emportement chez Whitman. Il veut traduire cet emportement qu'il y a à l'intérieur de l'être humain, la vitalité.
Alors que, évidemment, là, dans tout le monde, la plupart d'entre vous, vous avez lu Antonio Tabucchi, hein, étudié enfin, ensemble, etc. Et vous devez remarquer que ça n'a rien à voir avec ces. Alors, Colette, justement, je te voyais. Voilà. Non, mais c'est curieux. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ce roman, que j'en ai parlé à François, je dis c'est incroyable parce que j'en ai peut-être 10, une dizaine, 15, parce que tout ce qu'il écrit est intéressant. Mais jamais il a joué comme ça. C'est donc de penser qu'il l'a fait en hommage à Whitman, peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est frappant que les autres, Pereira Pretan ou Requiem, enfin, comment...
Dans les nouvelles, on trouve quand même des choses de ce type,
oui.
dans le cas, par exemple.
Dans le cas de... Ah oui.
Dans le cas, il y a des nouvelles fantastiques. Moi, ce qui m'a
c'est vrai.
Dans cette lecture, bon, j'aime bien l'idée de cascade ou de courant, parce que c'est en fait... En raccourci toute une vie.
C'est vrai. C'est vrai.
Et à la fois ce qu'on vit et ce qu'on rêve, mais dans toute une vie, puisqu'il y a le vieillissement, à la fin, il y a le.
Oui, oui.
Vraiment le
rêve.
En raccourci.
Ouais. Le vilain en bois dormant, jeune,
mais
vieux.
À propos de notions.
On trouve ça, par exemple, dans une nouvelle du cas. Qui évoque, alors je ne me rappelle plus le titre, mais qui évoque
c'est du
Buzzati.
C'est Buzzati. Ah oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait.
C'est pour ça que je me dis, c'est Buzzati. Mais oui, mais c'est fantastique, c'est le cas, c'est Buzzati.
Ça m'a rappelé vraiment une nouvelle.
Mais
à propos de rêve, quand même, Whitman dit par exemple que le rêve est maître de lui et que lui est maître du rêve. Et puis alors quand on parle de cascade et de force de la nature et de l'être humain, lui, il veut l'exprimer, comme vous avez pu voir, par la répétition. Et chez Whitman, la répétition est une façon de poésie pour lui. C'est un mode de poésie, la répétition qui emporte et qui fait tourbillon. Enfin, on revient
à cette espèce d'élan vital, quoi. Mais voilà, mais je vais vous donner les titres, par exemple, qui vont vous rappeler des souvenirs. Voilà ce qu'il a écrit, traduit en français. L'ange noir, la femme de Portopim et autres histoires, le fil de l'horizon, le jeu de l'envers, il gioco del rovescio. C'est ça, voilà. Il gioco del rovescio. Avec l'Ikebana, oui. Une malle pleine de gens, les oiseaux de Frangelico, dont qu'on a lu l'an dernier. Le petit navire, Piazza d'Italia. Petit malentendu sans importance, Pereira prétend. Requiem, rêve de rêve. La tête perdue de Damasène Montero. et au seuil, les trois derniers jours de Fernando Pessoa, pas oublier qu'il était le grand admirateur de cet écrivain portugais de génie, et aux éditions de Mille et une nuits, ça je ne connais pas du tout, La gastrite de Platon, un de ces derniers. Voilà.
Dans les jeux
le jeu, voilà, revêche, oui.
Un peu la même inspiration.
C'est vrai. Là, oui. Là, je suis d'accord avec toi.
On trouve la même inspiration.
C'est peut-être une vie en raccourci, mais il n'y a pas de suite chronologique.
Ah, ben ça, je vous l'avais dit. Hein. Non, mais ça.
C'est
ce ne sont que des flashs. Je ne sais pas, est-ce que M. Nivet peut me donner un peu son avis, please. Prego.
Je serais tout à fait d'accord avec cette notion de cascade, effectivement. L'intérêt, c'est de voir comment un mot en amène un autre. Oui. C'est surtout un jeu sur les mots, plus
oui.
Qu'un jeu psychanalytique.
Oui, oui. Et ben moi, je suis d'accord, jeu sur les mots, plus que jeu psychanalytique. Enfin, pour moi.
Oui, oui.
Jeu sur les mots.
Le mot en appelle un autre. Et que
mais là, n'empêche pas l'autre.
Le style, c'est de ne rien refuser dans les liaisons verbales.
Oui, c'est ça. Ouais.
Oui, mais remarque, l'un n'empêche pas l'autre, c'est vrai. Mais ça donne envie de le lire en italien pour ceux qui sont. Je ne l'ai pas encore lu en italien. Bon, ça vous. Disons que. Est-ce que vous avez trouvé quand même que ça avait un sens? Enfin, je. Voilà. Profond un sens. Voilà.
Il va vers la vieillesse.
Ah oui, et puis c'est tellement. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est cette réflexion de vieil homme qui sent qu'il n'a pas assez aimé. D'un homme qui n'a pas assez aimé.
Sa jeunesse,
c'est pas, et qui veut retrouver sa jeunesse. Oui. Ouais.
Voilà.
Voilà, bon, bah écoutez.
Merci beaucoup.
De nous avoir bien écoutés.